Lettre 13e. Des plaisirs à éviter. Mon cher Wormwood, il me semble que tu noircis un bien grand nombre de pages pour me raconter une très simple histoire. Le fin mot de l'affaire, c'est que tu as laissé ton homme te filer entre les doigts. La situation est grave et je ne vois aucune raison pour laquelle je chercherai à te protéger contre les conséquences de ton incompétence. Un tel repentir chez ton patient et un pareil renouveau de ce que la partie adverse appelle la grâce est pour nous une défaite de premier ordre. L'expérience que tu décris équivaut à une deuxième conversion, vraisemblablement plus profonde que la première. Et comme tu aurais dû le savoir, le nuage asphyxiant qui t'a empêché d'attaquer ton patient alors qu'il rentrait de sa promenade au vieux moulin est un phénomène bien connu. L'ennemi en a fait son arme la plus barbare, et il en use en général lorsqu'il entend manifester directement sa présence à ton patient, sous une forme que nous n'avons jamais pu, d'ailleurs, analyser complètement. Certains hommes en sont environnés en permanence, et restent de ce fait inaccessibles pour nous. Et maintenant, venons-en à tes gaffes. Comme tu le reconnais toi-même, tu as autorisé ton patient à lire un livre dont il a pleinement joui. Et cela, non pour qu'il puisse faire des remarques intelligentes à ses nouveaux amis, mais tout bonnement parce que cela lui faisait plaisir. Ensuite, tu lui as permis de marcher jusqu'au vieux moulin et d'y prendre le thé, de faire cette promenade à travers une région qu'il aime, et de la faire seule. En d'autres termes, tu lui as concédé deux véritables plaisirs. Es-tu ignorant au point de ne pas en avoir vu le danger ? Ce qui caractérise la douleur et le plaisir, c'est qu'ils sont incontestablement réels et procurent ainsi à celui qui les éprouve une pierre de touche pour reconnaître la réalité des choses. Ainsi, si tu avais cherché à damner ton patient selon la méthode romantique, en faisant une sorte de Child Harold ou de Werther qui n'aurait cessé de s'apitoyer sur ses détresses imaginaires, tu aurais essayé par tous les moyens de le mettre à l'abri de toute véritable souffrance. Car, bien sûr, 5 minutes de rage de dents auraient suffi pour dévoiler l'absurdité de ce genre de langueur romantique et pour démasquer tout ton stratagème. Mais tu as voulu le damner par la mondanité, en lui faisant prendre pour le plaisir la satisfaction de sa vanité, l'agitation, l'ironie et toutes sortes de fantaisies coûteuses, mais mortellement ennuyeuses. Comment se fait-il alors que tu n'aies pas compris qu'un vrai plaisir était la dernière chose à lui concéder? Ne pouvais-tu prévoir qu'un tel contraste suffirait pour donner le coup de grâce à toutes les fadaises que tu avais pris tant de peine à lui faire apprécier? Et que le genre de plaisir qu'il retirerait de son livre et de sa promenade serait précisément le plus dangereux de tous? Qu'il arracherait à sa sensibilité la carapace que tu avais réussi à former à sa surface? Qu'il aurait l'impression de revenir à lui-même, de se retrouver. Pour le détacher de l'ennemi, tu t'étais efforcé de le détacher d'abord de lui-même, et jusqu'à un certain point, tu y avais réussi. Mais maintenant, tout est gâché. Je sais que l'ennemi cherche lui aussi à détacher les hommes d'eux-mêmes, mais il le fait à sa manière. Rappelle-toi toujours qu'il aime sincèrement cette affreuse vermine, et qu'il attache une importance exagérée à l'individualité de chacun. Quand il leur dit de renoncer à eux-mêmes, il ne veut que les amener à démordre de leurs prétentions égoïstes et volontaires. Une fois qu'ils ont fait cela, il leur rend véritablement toute leur personnalité et se vante, à juste titre, je le crains, que quand ils sont tout entiers à lui, ils sont aussi pleinement eux-mêmes. Ainsi, tout en se réjouissant de les voir sacrifier même leurs désirs les plus innocents à sa volonté, il déteste les voir perdre leur individualité pour quelque raison que ce soit. Mais nous devrions toujours les y encourager. Les désirs et les impulsions qui sont au fond de l'homme sont en quelque sorte la matière première, le point de départ dont l'ennemi l'a doté. Chaque fois que nous réussissons à l'en détourner, nous marquons donc un point. Même pour les choses sans importance, il est toujours bon de remplacer ses goûts et ses dégoûts par les normes du monde, les conventions ou la mode. Je pousserai cette technique très loin. En règle générale, je m'efforcerai d'extirper de mon patient tout penchant particulier, à moins bien entendu qu'il ne s'avère être un péché. Je m'attaquerai même à des choses aussi insignifiantes que son faible pour le criquet, sa collection de timbres ou sa tasse de chocolat. Je veux bien que ces choses soient sans vertu en elles-mêmes, mais une sorte d'innocence, d'humilité et d'abnégation s'en dégage, et cela ne m'inspire guère confiance. L'homme qui jouit de façon réelle et désintéressée d'une chose quelconque dans ce monde, et cela pour la chose en elle-même, en se souciant comme de l'an 40 de ce que les autres en disent, est déjà prémuni contre certaines de nos attaques les plus subtiles. Tu devrais toujours tenter de faire abandonner à ton patient les gens, la nourriture ou les livres qu'il aime vraiment au profit des gens bien, de la nourriture appropriée et des bons livres. J'ai connu le cas d'un homme qui était fortement tenté par des hautes visées sociales et qui en a été préservé par un faible pour les tripes aux oignons. Il nous reste à savoir comment réparer le désastre. L'essentiel est d'empêcher ton patient de faire quoi que ce soit. Aussi longtemps qu'il ne passe pas à l'action, peu importe la sincérité de son repentir, laisse la petite brute s'y vautrer. S'il s'y sent poussé, laisse-le écrire un livre là-dessus. C'est souvent un excellent moyen de rendre stérile la semence que l'ennemi sème dans le cœur d'un homme. Qu'il fasse n'importe quoi pourvu qu'il n'agisse pas. La plus grande piété dans son imagination ou dans ses sentiments ne nous nuira pas le moins du monde, aussi longtemps que nous pouvons lui barrer le chemin de sa volonté. Comme l'a dit un homme, les habitudes actives se consolident par la répétition, tandis que les habitudes passives en sont affaiblies. Plus il sentira sans agir, moins il sera capable d'agir, et à la longue, moins il sera capable de sentir. Ton oncle affectueux, Scrutet.